Salut les marques, salut les smarts, salut les catch-upeuses, salut les catch-upeurs, salut le peuple de catch-up. Bienvenue, oui bienvenue à vous tous dans votre podcast qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch. Chaque semaine à grosses gouttes d'huiles essentielles. Chaque semaine nous analysons, nous décryptiquons, vous avez vu, alors là attention, nouveau verbe, un néologisme à catch-up. Nous décortiquons, nous encensons et parfois nous démolissons les shows de la WWE. Nous sommes aujourd'hui pour parler du monde merveilleux, du show bleu, du SmackDown, du 11 septembre 2020, le 1099e du genre. Je suis votre tonton Chris, votre Luchasaurus des podcasts. Je suis en tag team, je suis avec un tag team partenaire prestigieux, puisque je suis en l'occurrence accompagné de Papy. Salut Papy, how you doing?
Bonjour les petits enfants, bonjour tonton, I'm doing, je suis prêt à décroptiquer avec toi, à fond les ballons.
Décroptiquer.
Décroptiquons ensemble.
Décroptiquons. Alors, la décroptication du SmackDown du 11 septembre. Ouh. À Orlando, toujours dans le Thunderdome. Est-ce que tu as réussi à t'y connecter au Thunderdome, papy?
Ah ouais, non, mais moi j'étais. Tu m'as pas vu là, j'étais la troisième rang, à peu près sur la droite là. Le mec qui avait un Pikachu qui faisait la sieste, c'était moi.
D'accord, ok. Ah, il m'a bien semblé apercevoir un Pikachu à un moment ou un autre. Ouais. Cela dit, on voit tellement de trucs au passage que au bout d'un moment, le cerveau les imprime même plus. Quoi. Tellement il y en a. Quoi. Alors voilà, bah, on est à SmackDown, on est un peu dans la suite de toutes nos aventures depuis quelques semaines. Et en particulier, voilà, le fait marquant de ce SmackDown, on va passer tout ce qui concerne l'hommage aux victimes des attentats du 11 septembre pour ouvrir le show, et derrière on enchaîne direct avec l'arrivée du Big Dog, avec l'arrivée de Roman Reigns, avec son avocat Paul Heyman. Voilà, le Big Dog, il a pris les rênes de SmackDown, c'est The Guy, voilà, il a la ceinture, il est le champion, dorénavant il a un mec pour lui parler au micro, ça peut toujours être utile, voilà, qui va d'ailleurs commencer. On va arriver sur les Ouzo, puisqu'on l'avait bien signalé la semaine dernière. Hein, donc, le cousin Ouzo a gagné son title shot face à Roman Reigns. Et on va avoir droit à petite promo sur le ring. Je ne sais même pas comment dire ça. C'est méchant sans l'être trop. Voilà, on est quand même dans la cousinade. Et la cousinade est en péril, malgré tout, puisqu'il va y avoir bagarre entre les deux, quoi. Donc, Jey Uso, sur ses bonnes paroles, va faire son entrée et il va féliciter, en fait, carrément, il va féliciter pour l'opportunité qu'il a glanée. Et il va nous expliquer qu'il est à l'origine de l'idée, quand il a vu que Biggie était obligé de se faire remplacer, il a dit « c'est moi les gars qui veulent venir me battre ». Et il a bien fait cette décision, étant donné qu'au final, c'est lui qui a le shot. Et donc, ça va se passer avec le cousin. Alors, je te laisserai en parler un peu plus, mon petit papy, quoi, de toute façon, parce qu'il se passe pas mal de choses dans la foulée. Donc, on va dérouler juste le truc pour dire les Ouzo, le frangin Ouzo, Roman Reigns, Paul Heyman sont sur le ring. Là-dessus, interruption. Et qui donc interrompt? Eh ben, c'est le King Corbin. Le King Corbin qui va venir interroger. Alors, ne me demandez pas pourquoi King Corbin intervient dans une feud de main event pour le titre universel. Je ne comprendrai pas. C'est pas grave, mais King Corbin est là. Donc lui, évidemment, il se plaint de voir que c'est Jey Uso qui a remporté le combat. Il pense qu'il n'était pas prévu à la base, que c'est un scandale, qu'il considère que, en fait, il déteste de voir les gens user de leur pouvoir. Il faut croire que la cousinade a beaucoup de pouvoir en coulisses. Et il n'a pas le temps de trop chouiner, heureusement, parce qu'il y a le Celtic Warrior qui va débarquer lui aussi. Donc ça fait beaucoup de monde qui débarque. Sheamus qui fait son arrivée, qui va se plaindre aussi. Hein. On est en mode complain, quoi. Tout le monde se plaint, personne n'est content, tout le monde chouine. On se croirait revenu au bon vieux temps. Je ne sais même plus à quoi le comparer, en fait. Mais est-ce que Roman Reigns va être un champion où tout le monde va chouiner tout le temps sans arrêt? Ça va être le truc. Est-ce que ça va être la différence avec Drew McIntyre du côté du show rouge? On va bien voir ça. Et puis voilà, parce qu'évidemment, qu'est-ce qu'il veut? Il veut un triple menace, l'Irlandais, quoi. Parce qu'il considère que suite à ce qui s'est passé avec Biggie, d'ailleurs de ses propres mains, hein, sur lesquelles il n'aura jamais eu de sanction, c'est ça, hein, il n'a jamais été sanctionné, hein, de toute façon.
Ah bah non.
Voilà, bah non, non. Et donc, voilà, donc, Uso, lui, il leur explique qu'il n'a pas besoin de tout ça, quoi, pour se préparer, quoi, mais que si vraiment ils veulent se préparer au prochain match, eh ben, allez hop, tag team play à match, et on organise un truc pour le main event. Pénard, les cousins face à Corbin et Sheamus. On nous a booké le main event dans ce, on va dire, ces 10-12 premières minutes d'opener. Alors, papy, j'ai été très long parce que c'était un truc assez long. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ce package-là avec tous les protagonistes, avec les différents protagonistes, en l'occurrence Corbin, Uso, Sheamus, Paul Heyman, Roman Reigns? Comment tu as trouvé cette ouverture de SmackDown?
Ouais, j'ai trouvé ça pas mal, en fait. Effectivement, le Roman, il est sur la corde, la red, là, comme on dit ça. C'est-à-dire qu'il est limite. Est-ce qu'il va passer? Est-ce qu'il va rester le cousin sympa et tout? T'as l'impression qu'il est totalement froid, mais d'autre côté, le Uso, là, il est tellement chaud d'être avec son cousin qu'il ne s'en rend même pas compte. Et finalement, bah, du coup, tu leur colles face à eux deux vrais heels identifiés. Bon, alors, surtout de Corbin, quoi. T'as un loser et Sheamus pour qui, manifestement, maintenant, il est parti pour jobber pour les autres, ce qui fait bien, mine de rien. Et puis voilà, donc, ouais, bon, c'était pas, peut-être un poil long, mais sinon, l'idée, elle est là, quoi. C'est de dire, bah, Roman, on nous explique que c'est un heel, on nous met les huées à fond dès qu'il s'approche d'un micro pour bien montrer qu'il est heel. Mais d'un autre côté, il n'y a que son cousin, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va le trahir? Est-ce qu'il n'y a pas le trahir? On ne saura jamais, on saura peut-être le jour du pay-per-view, mais en tout cas, ils prennent leur temps. Et puis voilà, quoi, rien de spécial à dire. Ouais, le baron qui parle de favoritisme, alors que c'est le roi qui. Donc, il y a toutes les chances qu'il veut. C'est un petit peu drôle, mais bon, sinon, rien de
spécial. Ouais, le roi, tu trouves pas que c'est du déjà vu, papy, quoi? Le roi, on l'a déjà vu face à Reigns en plus, quoi.
Ah, mais là, c'est vraiment parce qu'il fallait le mettre. Comment dire, c'était, il fallait un méchant, quoi. C'était lui qui était là.
Ah, Sheamus, c'est un méchant.
Ouais, mais t'as la tag team. C'est bien comme ça. T'as les Uso et Reign, le Uso et Reign qui sont obligés d'être en équipe alors qu'ils vont s'affronter en quelques semaines. Alors, c'est des grosses ficelles, hein. Franchement, c'est, il y a vraiment
rien. Ça t'a pas. Alors, moi, écoute, hein, moi, je te dis, moi, ça m'a saoulé, hein, le fait qu'on book comme ça le main event dans un opener de promo ou avec un mec que j'ai pas forcément envie de voir. Là, ça me concerne, ça n'engage que moi, mais en l'occurrence King Corbin. Ça t'a pas posé de problème à toi?
Non, parce que pour moi, l'histoire qui est racontée, c'est Roman et Uso et son cousin, et comment il va finir par lui péter la gueule. Et donc, du coup, en fait, tous les autres, je les vois comme des accessoires. Et donc, du coup, bah, ouais. Qui passe par là. Oui,
je suis d'accord que c'est des faire-valoir dans cette affaire. Mais bon, moi, du coup, ça
m'a. Prendre un faire-valoir, Corbin, pour moi, il est parfait pour ça, quoi, tu vois.
Voilà.
Deuxième. Ouais. Ça aurait pu être n'importe qui. Hein. Franchement, ça aurait pu être n'importe quel île. Hein. Il fallait juste en prendre deux pour justement raconter l'histoire que, ce qu'on verra par la suite, quoi.
Et Reigns et Heyman, qu'est-ce que t'en penses, là, de l'association, là? Ça fait plusieurs apparitions maintenant, là, aujourd'hui. Heyman a repris le micro. Comment t'as senti ce truc-là, là, sur l'opener, là?
Pour moi, effectivement, Reigns ne prend pas trop le micro pour justement être minimaliste, ce qui semble être son nouveau personnage. Peu de catch, peu de paroles, peu d'action et pour un maximum de résultats. Et donc voilà, je le trouve très froid, moi, Roman, en fait. Très, très froid. Et finalement, c'est un peu drôle de voir que Jay, je crois. Et Uso, ouais, bien, ouais. Ne se rend absolument pas compte, quoi, que l'autre, il est ultra froid à côté de lui.
Ouais, et puis il est presque. Ouais, à ce côté mutique. Qu'il avait peut-être au niveau du temps du Shield, d'ailleurs, quand ils sont arrivés au départ, quoi, où il avait un peu ce côté mutique, le powerhouse, voilà, qui était derrière Rollins et Ambrose, et tu vois, il suffisait qu'il renifle un petit peu de la truffe, et ça commençait à faire peur.
Là, c'est plus mutique, style, j'ai pas envie de vous parler, quoi, tu vois, c'est.
Ouais. Et puis c'est mutique, je suis le champion, quoi. Voilà.
Exactement.
Donc on va nous annoncer, avant qu'il se passe quelque chose, juste après ce segment-là, on va nous annoncer un Fatal 4-Way entre Alexa Bliss, Nikki Cross, Lacey Evans et Tamina, qui va déterminer la prochaine Challenger, the number one contender, au titre de Bayley. Et on nous annonce aussi le match qui suit entre AJ Styles et Jeff Hardy, qui va compter pour l'Intercontinental Championship. Et si ce segment il est important, c'est parce que juste après l'annonce de ceci, on a Sami Zayn qui pète un câble et dans le camion de production et qui va demander à l'équipe de immédiatement supprimer la vignette avec Jeff Hardy et AJ Styles pour l'Intercontinental Championship. Fou de rage, le Sami en furie. Et d'ailleurs, l'équipe se trompe d'ailleurs et balance la pub. Hein, il me semble que c'est bien ça qui se passe. Donc du coup, derrière, on a Sami Zayn, le Québécois, qui débarque juste dans le Thunderdome, alors que Jeff Hardy et AJ Styles sont sur le ring, et il leur dit que non, c'est pas possible, quoi, parce que ce match, il peut tout simplement pas être pour le titre, puisque c'est lui qui est le champion, il a la ceinture pour le montrer. Adam Pearce, dont on a pas mal parlé avec IRM. Je ne sais pas si tu nous as écouté, mon papy.
Si, je vous ai écouté, oui, j'étais d'accord avec vous.
On a beaucoup parlé d'Adam Pearce. Et qui c'est donc qui voilà qui débarque à SmackDown ? Eh bien, c'est Adam Pearce. Donc, Adam Pearce, là, voilà, il vient rappeler à l'ordre Sami Zayn, quoi. Il lui explique que là, ouais, non, non, mais gars, ouais, c'est moi qui fais la police en ce moment. Et il lui dit que voilà, il n'a aucune légitimité pour décider quoi que ce soit. Il lui demande de quitter le Thunderdome. Sami Zayn, il fout un peu le dawa, il met un peu le souk, quoi. Et ça profite, en fait, l'affaire profite à AJ Styles, qui va aller cogner son adversaire sans que l'arbitre le voie. Alors, je m'arrête là, hop, juste avant de lancer l'Intercontinental Championship. Mon papy, t'étais d'accord avec Sami Zayn ? Le titre n'est pas légitime ?
Ah bah, en tout cas, il reste sur sa ligne de conduite, le brave Sami. Ouais, bon, c'est. On parlait de grosse ficelle tout à l'heure. Bah là, c'est une nouvelle grosse ficelle, hein, le double champion et l'ancien champion qui dit: mais si, mais c'est moi le vrai champion. Regardez, j'ai la ceinture que j'avais gardée avec moi, etc. Bah ouais, comme je pense que vous l'avez dit, de toute façon, l'essentiel c'est de se dire que ça va aboutir probablement à un match avec ces trois-là et que ces trois-là, on a envie de les voir s'affronter. Donc,
ouais, je crois que c'est assez unanime, ça, ouais.
Donc c'est plutôt de bonnes choses, tu vois. Autant le Fatal 4 Way féminin pour la place de Number One Contender, c'est passé très vite, mais n'empêche que quand j'ai vu l'affiche, moi je vais mais non, qu'est-ce que c'est cette horreur. Autant le Sami Zayn et Jeff Hardy, dès qu'il annoncera, ça sera comme bien plus réjouissant comme nouvelle, quoi. Donc ouais, et puis Adam Pearce patron, c'est le bras droit de Vince McMahon, là je pense qu'il y a plus photo, hein.
Ah, en tout cas Adam Pearce, clairement, il se positionne comme un espèce de general manager officieux. Et en tout cas, de ce qu'il fait à Raw pour l'instant, en tout cas, moi, j'en ai cette semaine, j'ai trouvé ça très bon. Et bon, là, il n'y aura eu pas beaucoup. Hein. Il sera intervenu sur ce segment-là en particulier. Mais il a eu moins de séquences que Raw. Mais, le Adam Pearce présent à SmackDown. Voilà.
Il est identifié.
Voilà. Du coup, on enchaîne avec le fameux title match pour le titre intercontinental entre Styles et Hardy. Alors là, ça va être un single match qui va se passer assez rapidement. Ça va être en 7 minutes 35. Donc, ils vont dérouler un petit peu, je dirais, la marchandise habituelle des vétérans là, hein, sur ce coup-là. Hein. On ne peut pas dire qu'il y aura eu d'innovation grandiose dans ce match. Ça va quand même assez vite. Je trouve que Jeff Hardy est pas trop mal au niveau du cardio. En tout cas, beaucoup mieux que son frère. Il n'y a pas de mal. Et voilà, cette petite minute 35 pour ce match. Mais ce match, évidemment, vu les circonstances avec Sami Zayn qui était pas dans les environs, ça pouvait pas bien se terminer. C'est un match qui va se terminer en DQ avec une victoire de AJ Styles. Il y avait Sami Zayn qui était revenu par l'autre côté. Il empêche AJ Styles de terminer le match en l'attaquant. L'arbitre sonne la fin du match. Zayn y poursuit. Il balance un Helluva Kick sur Jeff Hardy. Voilà, Sami Zayn a officiellement fait son entrée physiquement, j'ai envie de dire, dans la feud intercontinentale. Ça t'a plu, ce Helluva Kick ?
Ouais, là, c'est un peu le seul intérêt du match. Hein, le match Hardy-Styles, c'est pas vraiment l'intérêt, parce que de toute façon, t'attends juste l'intervention de Zayn pour pouvoir poursuivre l'histoire. Donc, ouais, au moins, il était bien dans la face, celui-là. Donc, il claquait bien, comme le Kick.
Voilà, donc... Ouais. Bon, après, ça va aller au bout quand même. On verra Jeff Hardy qui a beaucoup de mal à se relever, qui va se casser la gueule même sur la rampe. Voilà.
Ouais,
on va nous annoncer qu'il souffre de déshydratation. Alors bon. Et derrière, on voit Styles qui est pas content, quoi, et qui va dire que son adversaire a encore triché pour échapper à la défaite. Et que c'est pas Sami Zayn qui peut dire qu'il peut être le champion après avoir disparu comme ça pendant des mois et des mois et des mois. Alors il va prouver qu'il c'est le vrai champion. Voilà. Tout ça, c'était la promo vraiment du classique, quoi. Les mecs, c'était un segment bien tranquille, hein, sur l'intercontinental. Ouais.
Hein, par contre, la fin avec Hardy qui se casse la gueule, Styles qui fait une promo. Enfin, ça, je sais pas trop ce que ça apportait finalement. Tu vois, ils auraient pu s'arrêter à l'intervention de Zayn, c'est aussi bien. Hein.
Ouais, ça pouvait suffire à lui-même, effectivement. Voilà, toujours en coulisses, on va voir Sin Cesaro et ton pote Nakamura. Voilà, qui vont nous dire qu'ils vont avoir un match juste après, mais ils sont rejoints par Montez Ford et Angelo Dawkins, qu'ils ont défié lundi soir à Raw pour s'affronter d'ailleurs pas plus tard que lundi prochain avec IRM. Sur le coup, on pensait que c'était pour Clash of Champions, mais non, en fait, c'est bien lundi prochain qu'ils vont s'affronter. Et voilà, ils leur demandent de garder leur loge bien gentiment. Et il va y avoir un peu le dawa dans cette fameuse loge de Nakamura et Cesaro. Mais tout ça nous emmène vers un tag team match Et qui on va retrouver pour affronter les champions? On va retrouver les Lucha House Party avec un Kalisto qui est de retour là véritablement maintenant. Hein, ça y est, hein, il a réintégré le trio. Hein, y a pas de problème quoi. Donc on va avoir un match, tag team qui va être, et les amis, c'était un non-title match, hein, je précise, hein, et qui va être un match extrêmement expéditif, n'est-ce pas? Puisque 3 minutes 30. Voilà, victoire des Lucha House Party face à Cesaro. Face aux champions, quand même, mine de rien, victoire des Mexicains. Bon, évidemment, ils ont été. Cesaro et Nakamura, ils ont été distraits par Montez Ford et Dawkins, quoi. Mais. Bon, c'était. Enfin, moi, j'ai un peu tendance à dire ça souvent quand je regarde SmackDown en ce moment.
C'était nul, hein.
C'était nul et expédié, quoi. Voilà, et donc, on avait l'impression que. Allez, les gars, on n'a pas de temps, on est à la Fox, on n'a pas de temps. Voilà, donc, écoute, je te passe la parole, mon papy, sur ce segment, parce que, bon, moi, je n'ai pas grand-chose d'autre à en dire.
Non, mais j'ai pas trop le temps non plus pour décrire ce match. Non, franchement, c'était nul. Et en fait, plus les semaines passent, plus les divisions tag team, parce que c'est pareil, Arrow et NXT, c'est pas très glorieux non plus, de la WWE, sont pauvres là. Oh là, entre les Cesaro Nakamura qui font des matchs à chaque fois bidon contre le Chaos Party. Les autres équipes, elles n'existent même plus. Je sais pas,
pas
quoi dire. Et chez Raw, c'est pareil. Hein, t'as les champions, puis t'as rien d'autre autour. Enfin, ils n'arrivent plus à construire d'équipe, en fait. Et je pense que les divisions par équipe, c'est les divisions la plus mal servies sur la WWE en ce moment. Les autres ceintures, ça va. Ils arrivent quand même à peu près construire des trucs. Bah, alors, ça, ils n'arrivent plus du tout. Hein. C'est, depuis qu'il n'y a plus les Usos et le New Day, c'est catastrophe. Bref, c'était nul.
Ouais, c'était vraiment assez terrible là, ce segment de tag team, quoi, parce que vraiment, ça n'avait pas d'intérêt, il n'y a rien à en noter de particulier, donc c'est vraiment, ça nous laisse un peu perplexe ce qui se passe sur la tag team division bleue.
Et à la fin, t'as rien qui. Enfin, on va pas me faire croire que les Lucha Dragon, là où je suis parti, pardon, sortent plus fort après ce match-là, parce qu'ils gagnent sur une intervention et un roll-up, donc, voilà, ça les boucle même pas fort, hein, ça les boucle rien. Hein.
Oui, non, ça fait rien, ça n'a aucun effet, quoi. Donc voilà, bon, allez, on passe à autre chose. Et oui. Après une cousinade en péril, on va parler d'une espèce d'une fratrie, finalement, qui s'est déchirée ces dernières semaines entre Pay-Per-View et Weekly. Je parle de Bayley et de Sasha Banks. Voilà, les sœurs, voilà, la sororité, tu comprends, mon papy, ça, la sororité qui a explosé en vol. Et ça, c'est toujours terrible pour nos petits cœurs de chroniqueurs, de catch-up. Et donc Bayley est dans le ring, elle s'avance dans le ring et elle vient nous donner la version de son attaque contre Sasha Banks, quoi. Et voilà. Alors c'est bien parce qu'elle prend quand même indirectement, elle prend des nouvelles de sa copine parce qu'elle se demande après tout ce qui s'est passé, elle se demande si Sasha elle va bien, quand est-ce qu'elle va revenir. Mais personne ne se demande ce que elle, la petite Bayley, elle ressent. Est-ce que vraiment les gens pensent que elle a aimé passer à tabac sa meilleure copine? Eh ben oui, on est au catch, donc oui. Elle a bien aimé tabasser sa copine. Elle a pris apparemment un grand pied. Et voilà, et donc elle dit qu'elle est venue pour répondre aux questions. Et voilà, elle connaît Sasha Banks mieux que n'importe qui. Elle sait que c'est sa meilleure amie, entre guillemets. Elle est prête à se retourner contre elle à tout moment. Donc elle prétendait être sa meilleure amie. Voilà, du coup, elle a pris cher. Elle faisait que l'utiliser tout le temps. Donc c'était comme ça que ça devait se terminer. Voilà, donc. Pour elle, ce qui s'est passé vendredi dernier, c'était juste la fin d'une fausse amitié. Et voilà, si effectivement, grâce à Sasha, elle est devenue double championne, pour elle, dorénavant, elle est devenue inutile quand elles ont perdu les titres. Donc, acte, et donc je tabasse Sasha. Voilà, explication du split. Et au moment où elle va s'en aller, il y a Nikki Cross qui va faire son entrée pour le prochain match, pour le Fatal 4-Way, et qui va la passer à tabac, quoi. Et au retour, elle est avec Alexa Bliss et avec les médecins, enfin les officiels, quoi. Mais l'Écossaise semble apte parce que la chaise, excusez-moi, je me suis trompé, c'est la championne qui revient armée d'une chaise, quoi, et qui la passe à tabac. Donc du coup, l'Écossaise se retrouve un peu secouée juste avant le Fatal 4-Way, quoi. Donc voilà, c'était la promo de Bayley. Alors résumé très très vite par votre tonton Chris, hein. Voilà, Bayley s'affirme. Quand je dis qu'elle était au milieu du ring, vraiment, elle s'est assise au milieu du ring, elle a pris le micro face cam et elle nous a balancé une promo. Papy, comment soit un juge impartial sur cette promo de Bayley et qu'est-ce que t'en as pensé?
Elle s'est assise sur la chaise en plus qu'elle a utilisée pour massacrer Sasha Banks, je crois.
Elle était
directement dans le ring avec sa chaise. la brave Bailey. Bah ouais, bah elle confirme en fait ce qu'on soupçonnait la semaine dernière, c'est qu'en fait après tant que Sacha lui permettait de gagner, bah c'était la meilleure copine. Et puis bah maintenant qu'elles ont enchaîné deux défaites, qu'elle s'est dit bah tiens, c'est Sacha la poisse. Et ben elle a largué comme une pauvre merde quoi. Donc la pauvre Sacha, adieu Sacha. Bailey était une pure heel qui se débarrasse des personnes à la moindre contrariété, qui va lui foutre sur le dos la pauvre Sacha qui finalement n'est pas forcément la plus fautive sur l'affaire hein, parce que on se rappelle que bah, c'est Bailey qui abandonne je crois dans le match d'avant quand Asuka prend le titre à Sacha, c'est aussi parce que Bailey avait refusé de prendre un coup et qu'elle s'était écartée d'un moment. Enfin bref, c'était pas clair les actions de Bailey, mais comme elle c'est la plus heal de toutes, bah forcément elle remet tout dans la gueule de Sacha et puis voilà, elle l'a trahi. Voilà, on parlait de grosse ficelle, une nouvelle grosse ficelle de nouveau, un heal qui est très, très méchant, qui dit des très très choses très méchantes. Elle s'en prend à Nikki Cross après, pourquoi pas, de toute façon voilà, ça rajoute un peu plus de illitude à son personnage. Et Nikki Cross qui est courageuse pour aller se battre, et ben ça rajoute un peu de force fessitude à Nikki Cross. Donc bon, c'est du, là franchement on est dans un show ultra classique là, en termes de construction,
force et fessitude.
Exactement.
Ça c'est bon. Alors du coup voilà, Nikki Cross elle va revenir dans le ring hein, on vous rassure, et le Fatal 4-Way va avoir bien lieu. Donc ce Fatal 4-Way qui voit un line-up avec Alexa Bliss, Nikki Cross, Tamina et Lacey Evans. On va avoir un match de catch quand même, parce que ça va durer près de 12 minutes, la petite affaire. Ça va être surprenant en fait pour un fait, hein, mon papy, hein, on est bien d'accord, hein, y a un fait marquant dans ce match. Hein, le match n'est pas extraordinaire. Bon, Tamina, déjà...
C'est mauvais, il faut dire les choses.
Voilà, le match en lui-même... et pas super, super passionnant. Nikki Cross met beaucoup d'intensité, comme à son habitude. Alexa Bliss est dans un espèce d'état second, un peu pendant toute la rencontre. Elle a un comportement un peu étrange. Elle a tellement un comportement un peu étrange qu'à un moment, ils vont se retrouver ringside et que Alexa Bliss va choper Nikki Cross dans un Sister Abigail et va lui en coller un. Mais ça n'aura aucune conséquence, en fait. Elle va lui coller un Sister Abigail, mais Nikki Cross va revenir, et va revenir très, très fort, puisque comme c'est elle qui était, depuis le début du match, quand même celle qui menait bien la danse, malgré quelques shots de Lacey Evans, avec un terrible crossbody de Tamina. et du coup, notre Nikki Cross, notre Écossaise, là, décidément, les Écossais, ils ont le vent en poupe à la WWE, notre Écossaise, et ben, elle va remporter le match avec son folding press sur Tamina. On se retrouve avec une number one contender nommée Nikki Cross. Alors, papy, allez l'Écosse ?
Ah oui, allez l'Écosse. Alors, attends, juste une précision.
La dernière reine d'Écosse ?
Peut-être, on verra bien. Mais j'ai juste une petite précision parce que du coup, j'ai peut-être. Son finisher, c'est quoi ? C'est un espèce. Elle n'a pas battu par roll-up ? C'est un vrai finisher qu'elle a utilisé ?
Pour moi, ouais, c'est un vrai finisher qu'elle a utilisé. D'accord, bon, bah, peut-être qu'elle a enchaîné avec un roll-up et que j'ai pas percuté sur l'instant.
Non, c'est peut-être moi, j'étais resté sur cette impression que, parce qu'à un moment dans le match, alors le match en lui-même est mauvais. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai trouvé mauvais parce que les filles, elles ont vraiment pas du tout une alchimie entre elles quatre. Alors, déjà, le choix des quatre était particulier parce que Nikki Cross avec Sa Bliss, je veux bien. Lacey Evans, elle sort un peu de nulle part parce qu'elle sortait d'une défaite contre Naomi qu'on n'a pas vu. Et Tamina, bah, elle sortait de n'importe où. Alors moi, j'aurais peut-être plus vu des Naomi. Même une Mandy Rose, qui est nulle dans le ring, mais au moins, elle avait plus de momentum pour se pointer là dans le ring. Mais non, l'affiche était vraiment pas belle et ça s'est retrouvé dans le match et c'est pas beau non plus. Et on a eu beaucoup de séquences avec des finishers d'ailleurs, parce que je crois que Lacey Evans passe son Women's Right, Nikki Cross passe son finisher sur Lacey Evans d'ailleurs, puis après elle repasse du coup sur Tamina, donc il y a eu beaucoup de finishers. Et effectivement, la surprise d'Alexa Bliss qui fait son Sister Abigail, enfin le Sister Abigail sur Nikki Cross. Alors j'exagère un peu, là, elle l'a comme vendue parce qu'elle est restée un bout de temps en dehors du ring, Nikki Cross, pendant que Tamina et Lacey Evans se battent à deux, parce que du coup Alexa Bliss s'est barrée juste après ça, pendant la pub en fait. Et donc Nikki Cross est restée quelques minutes en dehors du ring et est revenue juste pour casser un tombé avant effectivement de finir le match. Et bah moi le match est pas bon, il y a eu pas le truc qui m'ont pas plu, l'affiche n'est pas belle non plus, mais Nikki Cross du coup elle est bien buildée là. Déjà avant le match c'était là, on voyait que c'était le focus était sur elle, et là c'est elle qui gagne en battant, finalement elle se retrouve avec deux heels dans le ring et elle s'impose quand même. Donc d'un point de vue catch, c'est pas beau. Par contre, d'un point de vue construction de personnage, je trouve ça bien qu'ils aient réussi à déjà qu'ils aient choisi la bonne personne pour gagner, puis qu'en plus ils aient bien renforcé sa position au fur et à mesure du match, quoi.
Ouais, c'était ouais, oui, c'est oui. Je suis assez d'accord sur tout ce que tu as dit en fait, mais après voilà, comme tu as du mal à te passionner dans le truc, c'est dur. Après, pour Nikki Cross, c'est une belle opération. Elle se retrouve à nouveau dans un title shot, hein. C'est pas la première fois que ça arrive. Elle reste solide dans le roster de SmackDown, hein. C'est une, pour moi, une des filles les plus solides.
Et puis, ah oui, bah, hein.
Voilà, le truc quand même dans ce segment, c'est Alexa Bliss. Alexa Bliss a placé un sister à Abigail. Alexa Bliss est partie. Alexa Bliss semble habitée par quelque chose du Fiend. On a tous en nous quelque chose du Fiend. Et voilà, qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe avec Alexa Bliss là ?
Ouais, je suis d'accord, le Fiend l'habite, la pauvre Alexa. Mais sinon, ouais, là, t'as vraiment deux histoires qui se croisent en fait, entre Sasha Bailey qui est en pause parce que le temps que Sasha avance sa blessure, et du coup Nikki Cross et Alexa Bliss, où tu sens qu'Alexa Bliss elle est vraiment en train de tourner vinaigre, et la pauvre Nikki qui s'accroche à sa copine, et puis du coup, elle est très probablement qu'il va y avoir de la suite de scénario pendant le match entre Bailey et Nikki Cross, vu que les deux histoires se rejoignent. Et que c'est qu'après les deux histoires repartiront chacune de leur côté, en fait, je pense. Alexa Bliss, elle part vraiment dans un scénario finesque. Donc, c'est pas plus mal qu'ils prennent un peu. Franchement, ils prennent pas mal leur temps avec la construction là, sur les histoires. Je trouve ça pas trop mal côté SmackDown.
Ok. Alors, sans transition, on va passer à un single match. On va avoir direct un match. Alors, si on n'a pas. Pas sans transition, parce qu'il y aura une petite vignette encore sur la fameuse dame là qui est chic avec des hauts talons et une fourrure. Moi, sur le coup, la semaine dernière, je sais plus pourquoi j'avais balancé Vanessa Bourne, mais en fait, là, on a pu découvrir que c'était une blonde. Donc, Vanessa Bourne, c'est une brune. Alors, bon, effectivement, ils peuvent très bien l'avoir relooké, mais c'est pas le
cas. C'est une perruque. Pas.
Ouais, ouais, alors je sais pas, Carmella ou un énième relooking de Mandy.
Ah, Carmella, j'ai oublié Carmella.
Ou un énième relooking de Mandy, je sais pas, parce que Mandy n'est pas apparu. On n'a pas dit aussi sur Bailey, mais c'est que pour le coup, Sasha Banks n'apparaîtra pas du tout à SmackDown ce soir, même pas
c'est
de vignette, rien du tout. Voilà, pas d'apparition de Sasha Banks. Donc voilà, donc petite vignette.
Ouais, Mandy, ça me semblera bizarre. Moi, j'ai pensé aussi à Mandy parce que c'est vraiment la blonde, type, mais. Et ça serait quand même bizarre, là en plus elle était récemment avec Otis, qu'elle reparte dans un style totalement. Enfin bref, ça serait vraiment très bizarre quoi, que ce soit Mandy. Bon après.
À suivre ou pas.
Suivre ou pas.
Voilà. Derrière, on va avoir un single match avec le détenteur de la mallette, en l'occurrence Otis, Mr. Money in the Bank, qui va affronter John Morrison, puisqu'en ce moment ils sont dans une espèce de feu de vaudevillesque avec le Miz et Morrison, les Heavy Machinery. Et en tant que détenteur de la mallette, on va dire qu'il est asticoté en particulier par John Morrison pour qu'il essaye à tout prix de la choper, la mallette. Donc on va avoir un match, alors là on va avoir un match, encore une fois, j'en veux encore utiliser le verbe expédié, puisqu'on va avoir un match qui va durer 2 minutes 25. Donc là voilà. Otis va passer une vader bomb, il pose sa vader bomb, quoi. Il aura mis son caterpillar bien évidemment sur John Morrison, et le Miz va en profiter pour venir choper la lunchbox du Serbe. Alors, on vous rappelle, la semaine dernière, Otis avait mis le contrat du Money in the Bank dans la lunchbox, et finalement, il s'était fait voler la mallette, avait conservé. Ce coup-ci, Otis et Tucker, ils vont quand même partir en chasse des dirt sheets dans le backstage, mais Otis, au bout d'un moment, il va s'arrêter et il va annoncer que le Miz s'est à nouveau fait avoir. Il a pris la mauvaise lunchbox, qu'il a toujours le contrat Money in the Bank qui est dans une autre boîte, dans la mallette. Et il n'y a qu'un trognon de pomme à la place du contrat. Un mot à dire là-dessus, mon papy ?
Bah, c'est ultra low card. En fait, la mallette de Money in the Bank, c'est devenu le titre 24-7, j'ai l'impression.
On en est presque là.
Mais si je devais retenir une chose, c'est qu'elle existe de nouveau, cette mallette, depuis 2 semaines. Donc, je vais pas totalement brûlé tout le truc, mais franchement là ils repartent très très loin avec Otis, hein. Et là ils l'ont enterré là pendant des semaines et des mois. Il était déjà plus au top de sa forme quand il a chopé la mallette. Bah, alors là il est tout en bas de la carte, il est 3-6 pieds sous terre, Et voilà, il y a un petit micro-mouvement avec la mallette. J'espère vraiment que ça va finir par un match pour désigner le détenteur de la mallette. Mais bon, peut-être que je me fais des films à ce niveau-là.
Ouais. On aimerait bien s'en faire plein des films. Hein. Moi, je t'avais dit mon souhait sur la mallette. Hein. C'était que Otis, il cache dans le cadre du tag team. Voilà.
J'aimerais pas ça.
Bah, moi, j'aimerais bien, tu vois, pour en finir.
Moi, voilà, je préférerais qu'il la perde.
Ou alors, alors là, ça, c'est la solution idéale. Là, tu me ravis. Là, oui, effectivement, là, il la perd. Là, voilà, l'affaire, elle est réglée. Et puis, la question, elle est vite répondue, comme dirait l'autre. Mais bon, je ne sais pas pourquoi je ne le sens pas, ça. Je ne sens pas cette perte de mallette. Là. Ça me...
Bon, en tout cas, moi, je pense qu'il va la garder encore pendant. Peut-être, jusque.
Qu'est-ce que tu vois, tiens, on a deux secondes, là. Qu'est-ce que tu vois comme scénario, là, sur Otis, là, pour cette mallette
Je disais, le mieux pour moi serait qu'il y ait un combat pour voir qui la gagne, éventuellement qu'il la perde. Mais en réalité, je pense plutôt qu'il. Bon, de toute façon, il est totalement dépouché. Et puis, en plus, il y a Biggie en réserve toujours côté SmackDown en jeune qu'on pousse. Et du coup, moi, je pense qu'Otis, il va être mis au frigo là, pendant des semaines, voire des mois, avec des petites rivalités à la con, à la blague, avant d'être construit. Donc, peut-être après les Survivor Series. Je ne vois pas avant, parce que peut-être qu'ils vont justement se dire bah, tiens, une équipe, peut-être qu'il va être le héros de l'équipe et sauver l'équipe, ou j'en sais rien. Et du coup, qui va redevenir sérieux à ce moment-là, mais sinon, je vois pas comment il peut faire. Et puis, je sais pas ce qui se passera après, hein, mais si c'est toujours Reigns le champion, il va tricher de manière honteuse pour l'empêcher de cacher. Et du coup, ça renforcera son statut heel. Je vois ça, mais ça me réjouit pas des masses hein, comme scénario.
Ouais, j'ai du mal à trouver quelque chose de réjouissant à ce propos, de toute façon. Donc, c'est compliqué. Allez, on va laisser le Otis. Profiter de sa lunchbox et puis on va arriver dans la Firefly Funhouse puisqu'on va avoir un petit segment hein, de la Firefly Funhouse avec Bray Wyatt qui va nous accueillir comme à son habitude qui va nous expliquer qu'à cause de Roman Reigns il lui manque quelque chose dorénavant dans sa maison, mais bon, c'est pas grave, il va retirer quelque chose de l'expérience de la défaite. Et ça va le définir en tant que personne. Ça définit les personnes que nous sommes. C'est beau, il nous fait des leçons de coaching personnel, Bray Wyatt. Mais il est là, en fait, pour nous présenter un nouveau poteau dans la Firefly Funhouse. Alors, il nous présente tu vas me dire, c'était un perroquet, hein, perroquet persévérant. Perroquet. Mais il est mort parce qu'il avait plus d'air dans la boîte. Donc, dommage.
Pauvre.
Donc du coup, déçu de ne pas avoir un nouveau pote, il va être interrompu par la marionnette de Vince McMahon, qui est apparu de temps en temps, quoi, et qui lui dit qu'il a engagé un conseiller pour la Firefly Funhouse, et qu'il s'agit de Wobbly Walrus. Alors, ce Wobbly Walrus, c'est un morse, et il a quand même un stylie très très proche d'un certain avocat nommé Paul Heyman. Voilà. Alors, voilà, c'était très court ce Firefly Funhouse. On sent que le Finn va revenir dans la danse pour le titre universel face à Roman Reigns à un moment ou à un autre. Qu'est-ce que t'en as pensé, papy ?
Ouais, alors je suis pas. Comme tu dis, un moment ou un autre. Moi, je suis pas sûr que ça pour tout de suite. J'ai l'impression qu'au contraire, il est parti un peu au frigo, le Finn, Bray Wyatt, pour se faire des petites histoires à part et faire sa vie le temps qu'on lui trouve une histoire, une rivalité.
Sachant qu'il a eu un coup dur cette semaine. Puisqu'on peut le dire, son papa s'est fait virer.
Voilà.
La WWE.
D'ailleurs, je me demande à quel point il jouait là-dessus sur le segment, parce qu'à un moment, je crois que c'est Vince qui dit qu'il va le virer si jamais il ne se ressaisit pas. Il y a Bray Wyatt qui dit aussi un truc amusant, c'est que, alors, je ne sais plus comment il formule, mais en gros, il disait que les gens ne croyaient pas en lui, qu'il n'avait pas les épaules pour tenir l'affaire Funhouse. Et sous-entendu, en fait, le titre de champion universel, parce que c'est un peu ce qu'il se disait, qu'on ait ramené Roman parce que Bray Wyatt n'était pas capable de tenir le titre de champion, en fait, ni d'ailleurs Braun Strowman, qui a disparu totalement, hein, Braun, si tu le regardes. Mais voilà, donc ouais, c'était surtout plein de petites références à la con. C'est un épisode qui finit par un à suivre. Donc je pense qu'ils vont faire des petits délires le temps de trouver une rivalité à Bray Wyatt. Alors peut-être contre le gros chien, mais je serais étonné qu'il retourne tout de suite sur le titre universel, le brave Bray.
Ouais, donc, non, voilà. Il va peut-être effectivement se passer un peu de temps. Il va y avoir un peu de feud de transition pour le Roman Reigns pour le réinstaller définitivement dans la Maison Bleue.
Voilà.
Et puis, donc moi non plus, hein, je suis assez comme toi. Je pense que le film peut attendre encore un peu de toute manière. Donc on va voir ça. Du coup, on arrive sur notre main event de ce SmackDown du 11 septembre, qui est donc Roman Reigns et Jey Uso face à Sheamus et King Corbin. Alors là, mes amis, bah, le main event, ça va être finalement assez simple, puisqu'on va avoir un 2 contre 1, puisque Jey Uso va débarquer tout seul sur le ring. On va avoir un match, alors là, un main event de 4 minutes. Pouh, je répète, un main event de 4 minutes, sachant que dans ces 4 minutes, il y a King Corbin dedans. Et le match, en fait, bah, si vous voulez, il n'y a pas de match puisque Roman Reigns ne vient pas. Donc, les trois gars vont dérouler un peu ce qu'ils savent faire. Voilà. Finalement, comme à Payback, Roman Reigns, il va enfin débarquer. Il va arriver en fin de match. Il va se contenter tout simplement d'un blind tag et il va terminer le match avec un spear sur Sheamus. Un café, l'addition, le main event de SmackDown est fini. La parole est à Papy.
Et oui, bah, Roman Reigns il continue à se pointer, faire une prise et remporter la victoire. Qui a remis son ancien t-shirt. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi il n'a pas gardé son truc. Je sais plus c'était quoi son t-shirt qui dit en gros je me pointe et je gagne. Qui me semblait plus adapté à ce qu'il fait actuellement. Bah, le brave Jey Uso, il a fait tout le match à se démerder à 1 contre 2. Puis au final, quand il commence enfin à obtenir la victoire avec bah il est sur le point de faire son splash là et ben bah, hop Roman lui vole la victoire et puis bah il s'énerve même pas contre son cousin Jay, il est toujours absolument naïf là pour l'instant, il se rend pas compte de ce qui va lui tomber sur la gueule et Roman toujours froid, toujours antipathique, toujours heel. Et ouais, alors par contre c'est triste que ça fasse 4 minutes que ce soit en main event après mais je sais pas quoi dire, est-ce qu'il aurait fallu faire plus longtemps avec Jay tout seul contre les deux autres, vu que de toute façon je pense que Roman lui était bouqué pour faire que 30 secondes. Je ne saurais pas dire en fait, ça m'a, tu vois, ça, j'ai eu des main events de 8-9 minutes qui m'ont plus gêné que celui-là de 4 minutes finalement, tu vois, je ne m'en suis même pas rendu compte qu'il était si court.
Ouais, enfin là il y avait vraiment rien quoi, c'était vraiment, enfin moi là, je t'avoue que moi j'étais complètement interloqué devant ce main event, hein. Oui, effectivement, c'est le mode opératoire du gros chien en ce moment. Mais là, déjà, le combat en lui-même, voilà, il n'y a eu que 4 minutes de combat, quoi. Et si tu veux, en plus, je sortais d'une review avec le IRM sur le main event de Monday Night Raw, qui a été quand même, qui a duré 15 minutes de match, plus 5 minutes de. Voilà, qui a duré en gros 20-25 minutes avec les entrées et tout ça. Mmh. Et là, on se tape sur un SmackDown, 4 minutes de main event pour ça, je veux dire, pour ça. Autant balancer le titre intercontinental dans le main event de SmackDown dans ces cas-là et la feud avec Sami Zayn, le triple menace et puis on met ce qui concerne le titre, vu qu'on l'expédie, on met le titre universel en opener quoi. Et parce que là vraiment j'ai trouvé ça, oh là 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 là, j'ai été un chaud en me disant mais non c'est comme ça que ça s'est fini là, ah ouais, ah non alors moi ça a été grosse déception quoi.
Ouais, alors après, c'est parce qu'effectivement, le show t'es vraiment plus concentré sur les histoires que sur le 4. Tu viens, comme tu dis, là, les matchs, on n'en a pas trop qui ressemblent à mémoire. Le plus long, c'est quoi? C'est le match des filles au final, du coup? C'est le seul qui dépasse.
Bah, écoute, 10 minutes. Bah ouais.
Et en plus, il était pas bon, donc c'était pas un show de catch. Enfin, c'était pas un show de in-ring, on va dire.
Quand même, l'Intercontinental Championship a duré que 7 minutes, tu vois, 7 minutes 30. Mais bah voilà, au final, il aurait été en main event avec tout le segment qu'il y a eu avant et après. Ouais.
Je suis pas sûr, ça aura peut-être pas, tu me diras.
Moi, je sais pas.
Contre, là, enfin, quoi, bon, après, il était tellement pas dedans, moi, que ça m'aurait. Ou alors, ils auraient fini avec les filles, à la limite, comme ça, ils auraient fait Nikki Cross ultra forte. Mais ça aurait
pourquoi pas, mais bon, tout ça pour finir sur quand même un truc faible, quoi. C'était très, très faible. Enfin, moi, en tout cas, j'ai trouvé ça très, très faible. Bon, bah écoute, c'était le main event de SmackDown 1099. Papy, ton top, ton flop et ta note.
Alors, je vais donner mon flop tout de suite parce qu'il me semble assez évident. Mon flop, je vais pas me répéter, mais en gros, c'est la division tag team qui n'existe plus et qui, autant les filles, c'est pas terrible, mais au moins elles essaient de construire quelque chose. Avec, je vois maintenant 4 filles qui existent, autant division tag team, il y a personne qui existe dans cette division, même les champions, ils m'en touchent une sans faire bouger l'autre. Donc, cette division dont je me fous complètement. Donc voilà, donc flop pour la division tag team. Le top, bah du coup c'est compliqué à dire parce qu'effectivement vu qu'il n'y a pas eu le catch les matchs en même part de top, vu qu'il n'y a pas vraiment eu de vrai show de catch. Et puis, le peu qu'il y a eu, c'était pas bon. Les segments micro, voilà, je vais donner mon top du coup à Nikki Cross qui reste une fille forte, on va dire. On a besoin, la division féminine a longtemps été aussi malade que la division tag team. Et donc, le fait qu'il y ait une fille de plus montée plus ou moins en haut de la carte, je trouve ça sympa. Je trouve que c'est intéressant de reconstruire cette division féminine qui était totalement morte il y a encore quelques semaines, voire quelques mois. Et ma note, du coup, je vais donner un 2,75.
Ah ouais?
Pourquoi 2,75? C'était pas phénoménal, mais d'un autre côté, j'aime bien les histoires qu'ils racontent, en fait, pour tout sauf pour la division tag team. Le titre US, je suis impatient de voir ce que ça a donné. Les filles, je suis impatient de voir ce que ça a donné. Roman Reigns et son cousin, je sais que ça se finit, enfin, que le cousin a aucune chance, mais d'un autre côté, ils ont pris parti de raconter cette histoire, donc j'ai envie de voir comment elle se termine. Donc voilà, donc j'ai au moins trois ceintures principales. Ont des histoires qui me donnent envie de voir la suite. Il n'y a que la tag team qui est vraiment en dessous de tout. Le show lui-même n'était pas terrible, mais j'ai envie de voir la suite. Donc, comme je dis que j'ai envie de voir la suite, je lui donne un peu plus que la moyenne. C'est mon raisonnement pour ce SmackDown.
Oh, effectivement, ouais, tu es bien là. Oh, ah ouais. Ah ouais. Alors, écoute, le flop. Moi, je leur ai mis un paquet de trucs, en fait. Et la tag team me plaisait bien, entre autres. j'en ai marre de le mettre à Otis. Mais là, non. Oh, je vais quand même le coller au main event, hein, parce que moi, vraiment, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, un main event de 4 minutes. Non, moi, j'ai l'impression qu'on se fout un peu de moi, quoi. C'est pas possible. Et là, il y avait vraiment un truc... Ok, moi je veux bien ce genre de truc avec t'as le gars avec la ceinture qui débarque pas, mais au final c'est dans un pauvre tactique match sans intérêt avec des adversaires qui débarquent comme Sheamus et Corbin. Je sais pas, enfin moi je suis jamais rentré dans le machin, ça m'intéressait pas. J'ai fait d'autres trucs en même temps, puis je me suis dit je vais pas faire d'autres trucs en même temps parce que ça a l'air d'aller super vite à partir du moment où Roman y débarque. Et j'ai bien fait, au blind tag, c'était l'affaire, elle était réglée. Donc, non, trop décevant. Moi, j'aime pas finir les weekly de cette manière-là, mais alors pas du tout même.
Il reboot totalement la carte, j'ai l'impression. Donc, ils doivent tout reconstruire.
Ouais, ils rebootent la carte, oui, c'est vrai. Avec l'arrivée de toute façon, avec l'arrivée du gros chien, ça a naturellement créé un espèce d'effet domino, mais dans le sens du bas, quoi, pour les autres, quoi. Donc lui il arrive hein, direct, il tape dans le main event quoi. Donc
peut parler de Matt Riddle qui était avec Drew Gulak dans les jobbers autour des Street Profits quand ils ont ruiné la chambre de.
C'est vrai ouais.
C'est que dans le jobber il y avait deux filles qu'on n'a jamais vues, donc je ne sais pas si elles sont quelque chose. Plus Drew Gulak plus Matt Riddle, donc voilà Matt Riddle. Ciao garçon, toi t'es bien parti mon gars.
Ouais ça commence fort. Bienvenue à SmackDown. Mon flop, moi, j'aime pas terminer un show de weekly sur une mauvaise impression sur les derniers segments. Et mon top, j'étais pas loin de le donner à Nikki Cross, parce que moi, je l'ai vraiment intense, rythmé, elle gagne un match important, elle se prend assis sur Abigail, dont elle va sortir. En parallèle, il y a cette histoire avec Lexi, avec la copine Lexi, et je trouve ça plutôt bien. Et allez, vas-y, je vais me faire plaisir, je vais le donner à Nikki Cross, moi, mon top.
Voilà, Nikki.
Et par contre, ma note, papy, je suis désolé, mais moi, je peux pas donner la moyenne à ce show, mais alors pas du tout même. Moi, j'ai pas aimé, voilà quoi. C'est moi dans l'ensemble, je me suis pas mal ennuyé quoi. Et vraiment là, pour le coup, j'ai vécu un très bon Raw. Enfin, en tout cas, un Raw de bonne qualité, à mon goût. Et là, je viens de vivre un SmackDown très faible, je trouve. Et je vais lui mettre un 2. Un simplement 2.
Oh.
Pas content, tonton, sur ce coup-là.
Ouais, je vois ça. Et puis, j'ai l'impression que tu n'étais pas content de celui d'avant non plus.
SmackDown, moi, je trouve ça très, très faible en ce moment, quoi. Très, très faible. Et Raw, c'est inégal, hein, comme à son d'habitude. Mais pour le coup, En tout cas, avec Irem, on était plutôt satisfait de la cuvée qu'on a eue lundi soir. Et toi ?
Oui, elle était meilleure que la dernière que j'ai commentée où j'étais pas content, moi. Ils ont touché le fond là, il y a deux semaines. Et là, c'est un petit peu rebondi quand même.
Ouais, ça a un peu rebondi. Ouais. Cette semaine, c'était pas mal, aller voir ça. Voilà, donc bah écoute, ainsi va se terminer cette review du SmackDown du 11 septembre 2020 avec votre papy et votre tonton. Alors, les amis, où est-ce que vous allez retrouver comme ça toute la famille ? Eh bien, la famille, vous la retrouvez déjà sur Discord, voilà, là où on donne toutes les infos pour le podcast, où on discute avec les gens fous furieux, abonnés, amoureux de l'équipe Catch-Up. Donc, voilà, des bises à Bébé Élu, à Zygote, à Sergent Slaughter, à Pro Débile, un grand actif en ce moment, un proactif en ce moment, Pro Débile.
Ah, il a des choses à dire.
Ah, il est chaud, il a des choses à dire, ouais, cet homme a des choses à dire, quoi. Et voilà, et tous, je peux pas tous vous citer, quoi, mais voilà, des bises à toute la team de Discordeurs. Vous nous retrouvez bien sûr sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Vous nous retrouvez sur le site officiel catchup.lepodcast.fr. Vous nous retrouvez sur YouTube, bien évidemment, allez actionner la cloche, n'hésitez pas à nous laisser des coms. Voilà, pour la référence, soyez sympas les amis, faites-nous référencer. Et puis bah, surtout, hein, là où on est partout, c'est sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Vous nous trouvez sur Apple Podcast, sur PodCloud, sur Spotify, sur Deezer et sur Google. Ah, comme au début de la review, j'ai commencé avec un décrypticon et voilà, je termine avec un Google Podcast. Et voilà, et j'ai fait le tour de l'immense promo de la team Catch-Up. Mon bon papy, c'était un plaisir de t'avoir pour cette review du monde merveilleux du show bleu.
Mais c'était un plaisir partagé. Et puis voilà, espérons qu'on soit d'accord sur la prochaine. Ça me fait mal au cœur de ne pas être d'accord avec toi dans une fan review.
Ah ouais, mais il y a des fois hein, quand même, hein. Des fois c'est compliqué, hein. On est quand même assez consensuel souvent en tag team partner, mais parfois ouais, des fois là ouais, pour le coup ce SmackDown, moi il est pas super bien passé. On aura peut-être l'occasion d'en parler lors d'une baston.
Peut-être.
Sur d'autres sujets, qui sait. Allez, c'est sur là-dessus qu'on vous laisse le peuple de Catch-Up. Ainsi s'achève cette édition de votre podcast qui transpire le catch. On vous fait plein de bisous. On vous fait des cordes à linge plein la face. On vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. Salut papy.
Salut tonton et salut à tous.
Salut peuple de catcheurs.
Ouais, chaud patate. C'était une petite recette, ouais, chou à guise plutôt pour faire hommage à nos braves écossais.